Revivez les Jeux Olympiques autrement avec votre émission Destination Jeux Olympiques sur Radio Plus.
Et on est de retour pour cette émission spéciale Jeux Olympiques jusque 13h sur Radio Plus. On va remercier Arnaud Cellier, chargé de mission au sein du Comité Régional Olympique et Sportif Hauts-de-France, qui était avec nous et qui, pris par ses obligations de chargé de mission au cross, a dû nous quitter pour retourner sur le terrain. On remercie également ceux qui étaient avec nous un peu plus tôt dans l'émission, Yann Cusack, juge arbitre qui sera... officiel des Jeux Paralympiques en tennis. Nous avions également Boris Delecroix, le président du club hôtelier Lille Métropole, qui nous a parlé des retombées économiques de ces Jeux Olympiques. Et nous avions Didier Oyer qui, en kayak, a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles, également aux Jeux de Séoul. Il a également participé aux Jeux de Séoul en 88 et aux Jeux de Barcelone en 92. Nous aurons également dans cette émission Mathieu Boderlic, qui a fait partie de la délégation française en boxe aux Jeux Olympiques de Rio 2016. On retrouvera une interview de Jean-Claude Leroy, président du département du Pas-de-Calais. On retrouvera également Alex Stasiewicz, ce sera entre midi et 13h. Et puis Thierry, nous avons encore beaucoup de chance, parce qu'il va devoir nous quitter dans quelques minutes, mais on a encore beaucoup de chance d'avoir avec nous Joachim Marx, qui a été médaillé d'or avec la Pologne aux Jeux Olympiques de 78.
Et tout à fait, Julien. Tu vois que c'est moi qui l'ai fait pour une fois. Joachim, on était resté un petit peu sur l'histoire des attentats de Munich, mais c'est pas que ça, heureusement. Est-ce que toi, à Munich, tu as eu la chance d'aller voir d'autres sportifs, d'autres épreuves, et quelles sont-elles ?
Non, on a participé uniquement au stade olympique pour le match, le RDA contre les Russes, pour la troisième place.
Pour la troisième place, oui.
On n'a pas eu le temps de voir les autres épreuves.
D'accord.
Mais par contre, on a bien suivi Guy Dru, parce qu'on savait qu'il est d'origine polonaise, et déjà à Munich...
Ils sont partout.
Et à Munich, il était médaillé argent.
D'accord. Donc toi, à cette époque-là, tu étais au Rochechorchow.
Oui.
Mon accent polonais est bon, Joachim ?
Oui, c'est bien.
Quel a été l'accueil quand tu es rentré au pays, la population, comment était l'accueil
D'abord, l'accueil, je n'ai pas participé, parce que les Jeux Olympiques ils se sont prolongés une journée de plus. On devait avoir la finale samedi, finalement ça a été dimanche, et clôture de jeu, c'était lundi. Mais nous, on a pris déjà l'avion à 11h du matin, parce que moi, avec mon club, comme on était champion, on a joué premier tour des Champions League. À l'époque, c'était Coupe des Champions contre Fenerbahçe mercredi. Alors, on n'a pas eu le temps. On n'a même pas entré à la maison. On a entré tout de suite à l'hôtel, au vert, avec l'équipe.
D'accord. Et toi, justement, tu ne joues pas la finale ?
Non.
Parce qu'on doit te préserver pour ce match de Coupe d'Europe.
Non, pas du tout. J'étais remplaçant comme il faut les remplaçants, quoi. Il y a des titulaires que le sélectionneur il a choisi, mais...
Alors, je te coupe, Joachim, comment tu ne peux pas être titulaire alors que tu as mis deux buts pendant cette compétition?
Oui, non, d'accord, mais la finale, c'est la finale, comme François il a expliqué. Hein. Il y en a qui sautent, il y en a qui rentrent. Hein.
Mais il n'y a pas un peu de frustration, justement, Joachim, quand on a marqué deux buts et de ne pas être aligné titulaire en finale ?
C'est surtout frustration, c'est ne pas aller sur le podium et recevoir la médaille. Parce que uniquement les joueurs qui participent à la finale, pas les remplaçants, qui reçoivent la médaille gravée avec votre nom. En allemand, Fußball, c'est football et votre nom à côté. Alors ça, c'était assez terrible à vivre. Mais après, on passe à autre chose assez rapidement. Parce que le jeu, on a fêté tous ensemble. Et dommage qu'on ne pouvait pas participer pour la clôture, parce que c'est encore plus liberté qu'ouverture. Parce qu'ouverture, c'est officiel, on est tous habillés. Là, on se mélange tout. Comme DJ a tout à l'heure, il a dit, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de race. On se mélange tout, on ne pensait pas. Et il faut savoir qu'à l'époque, s'il y a eu des Jeux Olympiques, les politiciens de tous les pays, ils ont demandé arrêter la guerre. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui dise, un politicien, il faut arrêter parce qu'il y a les Jeux à Paris. À l'époque, tous les petits conflits, parce qu'il y en a eu beaucoup, ça a été arrêté pendant les Jeux Olympiques. Tout le monde y respectait les Jeux. Alors pour ça, je dis, on ne pensait pas à la politique, c'était vraiment le sport. À l'époque, 72, c'était vraiment encore le sport amateur. Et beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction.
Toi, François, qui est un passionné de sport, on peut dire qu'avant d'être footballeur, tu as été aussi athlète.
Oui, c'est vrai, je fais l'athlétisme.
Et tu as été champion de France.
Médaille d'argent.
Médaille d'argent, voilà.
En cadet, en triple saut.
On le sait, on peut le dire, tu es un passionné de sport et de tous les sports. Les Jeux Olympiques, tu as vu tes premiers Jeux en 68 à la télé. Les Jeux de 72, quel souvenir tu en as, toi?
Ben moi, c'est Mark Spitz. Hein. 72, c'est Mark Spitz, le nageur américain. Cette course, cette médaille d'or, cet record du monde. Quoi. C'est un des plus grands exploits de l'histoire du sport. Et j'avais suivi... J'avais découvert, bon, la natation est un grand sport olympique avec l'athlétisme et la gymnastique, c'est les sports.
Et la boxe, tu nous
Et la boxe, à l'époque, il y avait le champion du monde, le champion olympique de boxe, c'était un. Alors, je ne sais pas qui c'était en 72, mais il y a eu. Avant, il y a eu Mohamed Ali, il y a eu George Foreman, il y a peut-être eu Frazier, il faudrait vérifier, mais c'était les numéro un du sport mondial avant les stars des Jeux Olympiques, c'était peut-être même la boxe. Après, il y a Ray Sugar Leonard qui est venu par exemple à Montréal, donc c'était des phénomènes. Et les Jeux, j'ai toujours suivi les Jeux passionnément depuis 68, je n'ai jamais manqué des Jeux Olympiques. Jamais.
Et justement, François, je présume que tu vas regarder avec attention ces Jeux Olympiques 2024. Dans quel sport est-ce que tu espères vibrer?
L'athlétisme, il y a toujours des phénomènes. Hein. Je pense qu'on en a moins connu que Bolt, etc. Mais il y a quand même des phénomènes. Il y a le Norvégien là au 400 mètres haies, là, bon, c'est quand même des trucs invraisemblables. Il y a les nouveaux Américains qui arrivent. Donc j'espère que le sport roi, c'est l'athlétisme hein, quand même. Hein. Donc les souvenirs, c'est Jesse Owens, c'est Carl Lewis, c'est Bolt. C'est quand même des noms qui ont marqué l'histoire du sport. Bon, après, j'attends beaucoup. Là, c'est le basket américain, quoi. Là, ils ont mis la grosse équipe, quoi. Là, il y a pratiquement quatre des meilleurs joueurs du monde qui seront présents. LeBron James, Durant, Curry et Leonard. Donc, c'est quand même, pour ceux qui connaissent un peu le sport actuellement, c'est quand même, il n'y a pas mieux, quoi.
Et quelles sont pour toi les chances de médailles françaises? Si on peut citer quelques sports, où penses-tu qu'on va gagner des médailles d'or?
Les médailles d'or dans les sports, bon, parce qu'on a quand même été assez à Pékin, hein, dans les sports collectifs, c'est quand même incroyable. Hein, on est champion olympique handball féminin masculin, champion au volley, au basket, le basket à 5, c'est pas mal aussi. Hein, le basket à 5 féminin masculin, on est pas mal. L'athlétisme, je sais pas. Est-ce qu'on aura une médaille en athlétisme? Je ne sais pas comment ça va se passer. La natation, je pense que le marchand va faire très fort. Donc j'espère beaucoup en ce nageur là, français là, qui peut faire 2-3 médailles peut-être, qui va être la star de la délégation française. Après, il y a des sports qu'on connaît un peu moins médiatiques.
Les frères Lebrun en tennis de table.
Les frères Lebrun, mais bon, il y a quand même les Chinois qui sont pratiquement imbattables. Après, il y a le judo. Quoi. Le judo a été exceptionnel. Surprenant à Pékin, avec on a battu les Japonais par équipe, ce qui est invraisemblable. Donc là, il y a des surprises incroyables. Il y a aussi l'escrime. L'escrime à Pékin, on avait fait très fort. Donc il y a des sports. J'espère que les sportifs français vont en France. Tous ceux qu'on connaît moins vont mériter des récompenses, quoi. Hein, j'espère que ça va leur donner des joies pour leur vie, quoi. Hein, mais donc voilà, il y a les sports collectifs où on brille, mais faire aussi bien qu'à Pékin, ça sera difficile. Après, individuellement, qui va être la star des sports individuels, on verra bien. Mais j'attends des surprises et il y en aura sûrement. Des gens qu'on connaît moins actuellement.
Et les footballeurs, t'as oublié?
Bah, les footballeurs.
On n'oublie pas les footballeurs, François.
Les footballeurs, vous savez, c'est quand même. Il faut c'est quand même une équipe. Hein. Il faut pas une équipe qui est construite pour le tournoi. C'est quand même. Il faut avoir une histoire. Les Jeux Olympiques, c'est pas une finale, c'est 6 matchs. Hein. C'est un premier tour. C'est un premier tour, il faut se qualifier. Et après, vous avez des matchs quart de finale, demi-finale, à élimination. Donc, et c'est tous les 3 jours. Donc, c'est pas un tournoi de plage, c'est un tournoi. Faut être prêt, quoi. Faut être prêt, faut avoir. Nous, on a eu des blessés à Los Angeles. Il y a eu Touvenel qui est blessé, et José Touré se blesse. Didier Sénac est rapatrié en France, et on était 17 seulement. Il y avait 17 joueurs. On n'était pas. Là, il y en a, je sais pas, 23, je crois. Nous, on était 17 avec 2 remplaçants. Donc, faut pas se tromper, quoi. Si t'es pas bien, faut être bon tout le temps, quoi. Et en plus, faut monter en puissance parce que à chaque tour, t'as un adversaire qui est plus fort.
Ouais.
Donc, il faut être bon sur le jour J et après sur la durée, et sachant que plus tu vas vers le podium, plus t'as un adversaire qui veut faire la même chose que toi. Donc, c'est l'histoire du sport. Donc, j'espère qu'on aura des grands moments à vivre avec ces Jeux Olympiques français.
Toi, Joachim, tu es né en Pologne, tu es polonais, mais tu es lensois depuis 75. Ton cœur, quand tu regardes les Jeux Olympiques, là, ton cœur, il est polonais, il est français ou...
Le deux.
Tu...
En football, je souhaite toujours la finale pour France-Pologne. France.
Ouais. D'accord.
Comme ça, je ne peux pas perdre. Je suis toujours gagnant. Non, je regarde toutes les disciplines, comme François il a expliqué, mais je pense que les footballeurs français ils peuvent faire quelque chose. On pense tout de suite médaille d'or, mais si c'est une médaille, c'est bon aussi. Hein. On ne peut pas être tous médaillés d'or, ça c'est vrai.
Et tu as d'autres sports que tu regardes et que tu aimes? François, lui, c'est un passionné, lui, il se lève à 3h du matin pour regarder du basket. Hein. Mais toi, tu... Toi, est-ce que tu as d'autres disciplines? Il aura pu d'ailleurs faire de l'athlétisme. Est-ce que toi, tu as d'autres disciplines?
Moi, c'est les sports individuels, comme François il a dit, les boxeurs, j'adore. J'allais, quand j'étais jeune, j'habitais à Varsovie, j'allais voir les championnats de Pologne en boxe, parce que ça existait. Et c'était boxe amateur, mais avec les Jeux Olympiques, à Munich, on a eu 2 médailles d'or et plusieurs médailles encore. Les pays l'Est, ils étaient très forts en boxe, tous les jeux des combats. Alors, oui, je regarde, mais comme François il a dit bien, c'est athlétisme qui, surtout à l'époque, il y a uniquement ça qui comptait pour tout le monde. Tu vois, Mark Spitz, oui, on a regardé à la télé, il n'y a pas eu des installations comme maintenant. Et, on a fêté, par exemple, nos médaillés devant notre appartement. Devant notre immeuble. Si quelqu'un il a gagné la veille une médaille, matin avant de partir au petit déjeuner, on s'est rassemblés, bien sûr, tous les athlètes qui étaient disponibles, parce qu'il y en a qui faisaient la compétition déjà le matin. Et on a fêté, il nous a montré, il y a une Polonaise, on a chanté, c'était un peu la fête, quoi. Mais il n'y en a pas eu des bâtiments, équipe France, équipe Pologne, non, on a eu. Grand bâtiment avec les télés qui on pouvait suivre les autres compétitions. Et nous, les footballeurs, qui on s'entraîne tous les jours, il n'y a pas de repos. On n'a pas... En plus, on a eu la chance ou malchance de ne pas jouer à Munich parce qu'il y a des groupes quand même. Alors, comme les Hongrois, ils étaient champions olympiques, c'est eux qui ont joué tous les matchs sur
à Munich.
Stade olympique. Et nous, on a joué un peu plus loin, hein, autour.
Sauf la finale, évidemment.
Sauf la finale, bien sûr.
Oh, tu le sais, ici, le bassin minier, le Pas-de-Calais, c'est une terre de Polonaise.
Ouais. Hein,
d'ailleurs, quand on va en Pologne, on dit que le Pas-de-Calais, c'est la 23e province de la Pologne. Est-ce que, pour nos auditeurs polonais, justement, est-ce que les Polonais ont une chance de médaille aux Jeux Olympiques de Paris? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement? Enfin, tu as encore des relations avec la Pologne, évidemment.
Bah, comme dans tous les pays, hein, en athlétisme, on est assez fort aussi là-bas. J'ai dit, je ne connais pas très bien parce que je ne regarde pas les compétitions sportives à la télé. Et les Polonais ne les montent pas beaucoup en France. Mais il y a quelques médailles certainement, comme la France. On ne sait pas qui, parce qu'il y a des fois des surprises, etc.
Et là-bas en Pologne, qui est le plus grand sportif? Bon, il y a l'équipe nationale de football est suivie toujours, mais il y a, dans les Jeux Olympiques, il y a eu des sportifs, notamment en 80, je ne me souviens plus de celui qui avait battu le record à la perche.
Je voulais te parler de ça.
Ben vas-y, on t'écoute.
Parce que Jacques. C'est
Kozakiewicz.
C'est comme on a dit, comme on a dit que c'est la fête, on ne regarde pas les pays, il n'y a pas de race et tout ça. Alors j'ai vu sur Facebook, justement, ça a été mal exprimé, cette geste. Parce que si on est sportif et on est en finale, il reste dernier saut, soit tu es champion olympique ou tu restes troisième. D'accord. Et devant Kozakiewicz, il y a eu deux Russes. Alors, s'il passe ce dernier saut, soit il est champion olympique ou reste troisième. Alors, bien sûr, 100 000 personnes qui sifflent et tu dois se préparer, ce n'était pas idéal. Et comme il a passé, comme nous les footballeurs, hein, si on nous siffle, on fait les mêmes gestes des fois, ou pire. Alors, ce geste-là, ce n'était pas parce que c'est les Russes et tout ça, c'est pour les siffler de 100 000 personnes qu'il a perturbé. Alors, je peux vous dire, c'était magnifique pour nous. Hein. C'était magnifique parce qu'on a été invité par le Comité olympique pour les 80e année anniversaire du Comité olympique polonais. Et on a été tous présentés en salle, etc. Et chaque médaille d'or, il y a eu des images. Alors on a tous attendu, comme il a descendu, voir les gestes. Il y a eu président du Comité olympique international, président de Pologne, quelques invités encore. Et on a tous... Mais ils ont coupé ça. Alors on a tous en salle, on a tous rigolé parce qu'on voulait voir ça encore une fois. Et lui était à côté de nous. Hein. Alors du coup, c'était formidable. Mais ce n'était pas parce que c'était les Russes. On ne pense pas à la politique aux Jeux olympiques. Ça, c'est la seule compétition peut-être qu'on est heureuse de participer.
On va expliquer, Julien, pour nos jeunes auditeurs qui n'étaient pas nés à cette époque-là, l'athlète polonais bat donc deux Russes en finale, et ça se passe à Moscou, et l'athlète polonais, François vient de le faire, mais à la radio ça se voit pas, il fait un bras d'honneur, mais c'est un bras d'honneur qui a été interprété par les journalistes de l'époque en disant que c'était un bras d'honneur politique envers l'URSS, mais en fait non, c'était un bras d'honneur qu'il adressait au public du stade de Moscou. Voilà, et cette image-là est récemment ressortie sur les réseaux sociaux par justement Christophe Marx, son fils, qu'on embrasse, et ça a été commenté comme un geste politique alors que ce n'était pas le cas du tout.
Non, je confirme.
C'est comme la main de Maradona contre l'Angleterre, donc c'est aussi célèbre pour les... Ce qu'on
veut. Ah oui, c'est
la main de Maradona, le but de Maradona.
C'est célèbre, oui.
C'est des gestes.
Forcément, tu l'avais vu, toi qui es passionné de sport.
Comme les Américains sur le podium, le poing en l'air à Mexico. Donc, c'est des images fortes. Hein, dans un contexte sportif, c'est des images qui sont marquantes. Mais bon, c'était un exploit Kovacevic qui bat les Russes là-bas au dernier essai. Si, comme me dit Joachim, s'il passe pas, il est troisième. Donc c'est tout ou rien, quoi. Donc il gagne. Il fait ça, après c'est 5,90 ou je sais pas. C'est quand même à l'époque. On est en 80, hein, 5,90 en 80. Fallait y aller, quoi.
C'était le record à l'époque.
Je sais pas. Faudrait rechercher, mais. Ouais, ouais. C'était le sommet du sport, quoi. Donc, et les Russes étaient favoris. Il fait ce saut. Après, ce geste, mais ça se prend quand t'es devant la télé, tu comprends, quoi. Il en avait pris plein la tronche avant, quoi. Donc, c'est le sommet d'une carrière. Peut-être pas pour les footballeurs, mais pour les athlètes, c'est le sommet de leur carrière.
C'est soulagement, hein. Surtout, c'est le soulagement. T'es champion olympique.
T'es champion olympique, t'as pas plus haut.
Dernier saut de compétition.
T'as pas plus haut pour eux, quoi. C'est le sommet du sport, être champion olympique pour la majorité des sportifs.
Pour la majorité des sportifs, on est bien d'accord, les Jeux olympiques, c'est le sommet. Pour un footballeur, la Coupe du Monde, c'est plus important ou les Jeux olympiques?
Non, la Coupe du Monde, c'est plus important. Il y a une histoire, c'est historique quand même. Il y a une histoire olympique. Mais il y a aussi une histoire, les Coupes du Monde, c'est la première, je ne sais plus, c'est en Uruguay en 1930 et des poussières, mais bon, il y a quand même une histoire, il y a un vécu, il y a des légendes, il y a Pelé, il y a la Hongrie qui perd en 50 et des poussières, il y a une grande histoire du football. Donc il faut avoir de la mémoire quand même. Il y a eu Cruyff qui perd en finale contre Beckenbauer, il y a eu Séville 82, il y a eu des grands moments de sport à travers le foot, donc, et c'est la Coupe du Monde. Maintenant, il ne faut pas ignorer... la fête du sport en général, c'est les Jeux Olympiques. C'est tous les sports. Voilà, ouais. Voilà. C'est la fête du sport en général. Dont le football, dont tous les sports réunis, tous les athlètes réunis. Et ça aussi, ça mérite l'attention aussi.
Oui, non, mais on est bien d'accord que la Coupe du Monde, pour un footballeur, c'est plus important, mais les Jeux Olympiques, ça reste. De toute façon, ta médaille, personne ne te l'enlèvera.
Non, mais
si ça ne fait pas voler.
Non, mais regarde un exemple. Les tennisman, les top tennisman, Djokovic, Nadal, Federer, ils font les Jeux Olympiques.
Ouais.
Ils font Roland-Garros, ils font Wimbledon, ils font les majeurs, ils font leur métier. Mais les Jeux Olympiques, ils y vont tous, en courant même. Nadal veut les faire, il va peut-être pas faire Roland-Garros, mais il va se préparer. S'il fait pas Roland-Garros, il fera les Jeux Olympiques. Hein. Donc c'est quand même des choses.
Il veut faire les deux.
Il veut faire les deux, mais peut-être qu'il pourra pas. Mais Djokovic a fait médaille de bronze, je crois, à Pékin ou un truc comme ça. Federer a été champion.
Non. Djokovic, c'est un rêve. Oui, il fait médaille de bronze. Son rêve, c'est d'avoir la médaille d'or, mais Djokovic n'a jamais gagné.
Non, mais il pourrait zapper. Oui, avec le rythme de vie qu'ils ont et des tournois, il pourrait zapper les Jeux Olympiques. Et eux, ils y vont. Ils y vont en courant même.
Le premier à l'avoir fait, c'est Henri Lecomte. Ouais, les tennismen professionnels ont le droit de participer aux Jeux Olympiques depuis 1988.
D'accord, ouais. Mais donc ça, c'est un exemple à suivre pour les Jeux Olympiques, c'est le sport, c'est la fête du sport mondial. Donc tous les grands, les tops, quand t'es dans le village olympique, tu les vois quoi. T'as le plaisir de voir le sommet du sport à côté de toi quoi.
Et on poursuit cette émission Destination JO avec une nouvelle question posée cette fois-ci par Anaïs.
Comment avez-vous vécu l'après-JO ?
Bah oui, parce qu'en fait, vous avez marqué l'histoire de ce sport par vos médailles. Il y a aussi il y a la retombée quelques jours, quelques semaines après. Mais la suite pour vous, quelques mois après, quelques années après, comment est-ce que vous avez vécu l'après-JO ? Une fois que la carrière aussi s'est arrêtée ?
Comment tu l'as vécu, toi, Joachim ?
Pour moi, ça a été simple. Hein. Directement des Jeux Olympiques de Munich, de Varsovie, je suis parti au vert avec mon équipe pour préparer Coupe Europe. Je sais que l'équipe il était reçue à l'aéroport par milliers de personnes. Ça a été la fête. Après, toute la journée, c'était la télé. Et moi, je ne voyais même pas les images parce que j'étais sur la route, parce qu'il fallait faire 400 km jusqu'au chez nous en Silésie. Alors, j'ai vécu ça normalement. Il n'y en a pas eu de grandes fêtes. C'est ce que je regrettais chaque fois, comme j'étais déjà en France, installé. Par exemple, les sportifs qui gagnent quelque chose, ils sont invités dans leur village où ils ont vécu sa jeunesse. À l'école, chez nous, ce n'était pas à l'époque. Maintenant, oui. Mais à l'époque, non, c'était très simple.
Mais dans les mois qui ont suivi, comment tu l'as vécu ? Par exemple, on sait que toi, tu es un immense buteur. Mmh. Tu étais l'un des meilleurs avant-centres, et tu l'as encore, l'un des meilleurs avant-centres de l'équipe nationale de Pologne. Est-ce que quand on a une médaille d'or, et qu'on joue en championnat, est-ce que dans les yeux de tes adversaires, il y a un autre regard ? Est-ce qu'il y a plus de respect ? Est-ce que...
On n'a pas senti ça, parce que pour les matchs, bien sûr, mercredi de Coupe Europe, on a été reçus sur les ronds centrales, on nous a donné des flairs et ça s'arrêtait là. Quoi. Il y a un speaker qui l'a annoncé, il y a des applaudissements et tout ça. Mais pour moi, personnellement, et je pense pour les autres aussi, il n'y a pas grand changement à l'époque. Parce que je peux vous dire, à l'époque, il n'y a pas tout le monde qui a eu la télé encore à la maison.
Ouais, en 72,
mes parents, ils ne regardaient pas la finale parce qu'ils n'ont pas eu la télé. Mon frère non plus. Alors, c'était assez simple.
D'accord.
J'ai bien vécu, on n'a pas eu de problème.
Tu as une augmentation dans ton club ou pas ? Non, mais ce sont n'étais pas professionnel.
Pour vous dire, maintenant, tout est sponsorisé, c'est grandiose les Jeux Olympiques. À l'époque, c'était vraiment les Jeux pour les amateurs. Mm. Pour vous dire, notre sponsor Adidas, pour la médaille d'or, on a eu un cadeau radio cassette Grounding.
D'accord.
Voilà.
Voilà, Joachim fait de la pub maintenant. Et toi, François, comment tu as vécu les Jeux après ?
Ben un peu comme Joachim, nous on est rentré, donc on a joué le samedi, on a été à Malibu, à la plage de Malibu.
Où t'as failli
J'ai failli me noyer, incroyable.
T'es noyé ?
J'ai failli me noyer le lendemain de la finale, dans une vague à Malibu. Donc on est rentré, on avait à choisir soit Malibu, soit la cérémonie de clôture avec Lionel Richie. On s'est dit, allez, on va se baigner, on va manger au soleil. Donc on avait choisi autre chose. Et après, on est rentré le lundi, on arrive à Roissy. Il y avait Gérard Rouillet, l'entraîneur de Lens, qui était à l'aéroport, qui est venu nous chercher. Donc on est rentré sur Lens, et le mardi matin, on est à l'entraînement à Lens, et on a joué le samedi contre Rouen, je crois que c'était Rouen. Donc il n'y a eu aucune coupure, aucune fête, rien du tout. On a repris l'entraînement, on a refait notre métier de footballeur professionnel.
Et même question que pour Joachim, toi tu étais un très grand attaquant, un excellent et extraordinaire même ailier gauche. Est-ce que dans le regard de tes adversaires, quand tu rentres, alors toi tu as de la chance et pas, puisque cette année-là, vous êtes champion olympique et l'équipe de France de football, la sélection A, est championne d'Europe. Mais toi, est-ce que dans le regard de tes adversaires, est-ce qu'il y a eu un changement ? Est-ce qu'il y a eu plus de respect ? Est-ce qu'il y a eu le jeu plus dur en se disant « tiens, je vais me taper un champion olympique ».
Ah, ça, je c'est une autre époque. Il n'y avait pas de. Je suis passé. Je me suis replongé dans mon métier de joueur avec davantage de confiance. Ça te donne confiance quand même. Hein. Un tournoi olympique marqué, être champion olympique marqué dans un match comme ça, ça te donne de confiance. Donc après, ils font confirmer. Ça te met plus de pression. T'as plus d'attentes. Il y avait plus d'attentes encore à Lens. Hein, un peu trop peut-être. Hein, on avait Daniel, le duo olympique, les deux attaquants de l'équipe olympique jouent à Lens, donc il fallait être performant tout de suite. Hein. On a eu un peu de mal à reprendre. C'est vrai qu'on aurait pu couper un peu, peut-être pas physiquement, mais mentalement, peut-être un petit peu être tranquille un petit peu, 15 jours. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On a repris la compétition dès le samedi. J'ai pas senti chez les autres, mais bon, je faisais pas attention à ça. Franchement, je faisais pas attention à. T'étais dans ta bulle de sportif professionnel, tu te prépares, tu fais pas attention à ce qu'on pense de toi, quoi. Hein. Mais bon, fallait être bon tout le temps de toute façon. C'était quand t'es attaquant, si t'es pas bon, t'es dehors.
Il y a un devoir après de justifier cette médaille. Quand tu peux. Tu changes de statut à ce moment-là.
Je sais pas parce qu'après j'ai eu une sélection d'équipe de France. Après il y a eu d'autres joueurs. Tu changes. Non, il y avait l'équipe de France. Léa était au sommet. On était deux fois demi-finaliste de la Coupe du Monde. La génération Platini. Pour entrer en équipe de France, fallait être devant Bellone, fallait être devant Didier Six. Il y avait Amis qui était même pas pris. Loïc Amis n'était même pas en équipe. Pour moi, c'était peut-être le joueur le plus complet, mais il n'était pas en équipe de France. Donc, il y avait une concurrence importante. Des joueurs qui jouaient en France. La plupart des joueurs français jouaient en France. Donc, il y avait l'équipe de France olympique, il n'y a que des joueurs qui jouent en France. 13 clubs du championnat. C'est un titre de la division 1 française. Il y a 13 clubs qui sont représentés aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, il y a l'équipe de France olympique dans Thierry Henry. Je ne sais pas combien il y aura des joueurs qui joueront en France. La preuve, c'est que les joueurs du Real Madrid ne viendront pas. Mais. Donc, c'était la pression, c'est toi qui te la mets. De toute façon, la pression, tu dois te la mettre. Quand tu es un joueur, tu dois être exigeant au niveau professionnel. Si tu veux te maintenir, il faut être exigeant tous les jours. Donc, la pression, elle est d'abord... Elle n'est pas des autres, elle est surtout la tienne.
Et Joachim, c'est pareil aussi, il y a une pression après les Jeux. Toi, tu et c'est un mystère de l'histoire du football, tu ne fais pas la Coupe du Monde 74, alors que la plupart de tes coéquipiers aux Jeux de 72 y étaient.
Ouais, j'étais 2-3 mois avant, j'étais blessé assez gravement. Et... pour vous dire, l'exploit plus important en Pologne, c'est quand même les médailles d'or en 72, qu'il était oublié en 74, parce que la Pologne terminait un championnat du monde, troisième, en battant Brésil en petite finale en 0. C'était troisième. Alors ça a été oublié à une époque, mais dans l'histoire du football polonaise, c'est toujours champion olympique d'abord en première place.
Parce que chez toi, en Pologne, les sports olympiques sont plus importants que le football. On sait que dans ce qu'on appelait à l'époque les pays de l'Est, l'olympisme est quelque chose de très très important.
Bien sûr. Alors pour vous dire, pas uniquement en Pologne. Parce que moi, je n'ai pas participé pour le championnat du monde en Allemagne, mais tout de suite, premier match après, pour éliminatoire Coupe Europe, j'étais à nouveau convoqué. Et en 75, on est parti avec l'équipe nationale aux États-Unis. Et là-bas, par exemple, Tomaszewski, qui était gardien but, un des meilleurs en Coupe du Monde, il n'était pas content parce que tous les Américains, les journalistes, ils cherchaient les champions olympiques qui restaient. Les Coupes du Monde, ça ne les intéressait pas trop. Uniquement les champions. Alors, ils nous ont fait des photos séparées, les Coupes du Monde 74. Alors, ceux-là, ils n'étaient pas contents parce qu'ils pensaient, comme tu viens de dire, François, que les Coupes du Monde, c'est prioritaire pour un footballeur quand même. Là, pour ça, moi, je dis chaque fois, les Jeux Olympiques, c'est la fête. C'est la fête, il n'y a pas de politique, tout le monde se mélange et tout ça. Et Coupe du Monde, c'est uniquement avec les footballeurs.
Voilà. Y compris quand on joue contre l'URSS en demi-finale, contre la Hongrie en finale, ça reste quand même. On connaît les relations qu'il y avait ces pays-là. Ça reste sur le terrain, vous étiez.
Bien sûr, on ne pense pas à autre chose qu'au football. Hein. De toute façon, les matchs, on a préparé en même temps avec l'adversaire, parce que si vous, à Munich, vous avez joué comme nous tous les matchs extérieurs, les deux équipes qui jouaient entre eux, ils partaient en même temps. Il y a eu deux bus à la gare avec les trains. Il y a eu quatre wagons, deux couchettes pour les équipes, un wagon de resto. Alors on a mangé ensemble. Si on arrivait trop tôt, on pouvait dormir, faire la sieste dans le train parce que c'était train couchette. Et retour, c'était pareil. S'il y a une équipe qui a eu des difficultés, passer les tests de dopage. Parce que des fois, tu ne peux pas le faire. Alors, tout le monde y attend, les deux équipes.
J'ai reçu, et on va tout à l'heure l'entendre, Audrey Feutry, qui fait de l'aviron. Et on espère qu'elle se qualifiera pour les Jeux. Ça sera le mois prochain à Lucerne. Elle disait que quand on est au sommet, quand on est champion olympique, elle ne l'est pas, ça va être sa première participation, mais elle l'espère et on l'espère aussi avec elle. Elle disait qu'après on est sollicité. C'était ton cas, François ? Il y a les sponsors, les entreprises qui veulent qu'on vienne faire des conférences et compagnie. C'était ton cas, François ?
Un petit peu, quand on était à Lens, au retour, on a fait avec Didier et Daniel, on a fait des coupes publicitaires, mais c'était le Racing Club de Lens qui organisait ça. C'était donc on a fait dans des magasins d'électroménager, on allait des séances d'autographes dans des grands supermarchés, des choses comme ça. Hein, mais c'était surtout le Racing qui organisait des peut-être pendant un mois, ça a duré pendant un mois. Il y a eu des trucs comme ça une fois par semaine, les trois Olympiques lensois, allez hop, on vous emmène dans des boutiques, des trucs comme ça. Donc, mais après, bon, ça c'est... Ouais, rapidement, ouais. On est passé à autre chose, tout le monde est passé à autre chose. Mais bon, il y avait... Thierry, dans les années 80, il y avait Canal+, qui commençait, mais il y avait une émission
la
de
même
foot.
Année, en 84.
Voilà, alors. Mais le sport n'était pas aussi développé, et la médiatisation du sport n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui, quoi.
D'accord. On est en... Allô ?
Oui, on est avec Thierry, on est en compagnie de Mathieu Boderlic qui a participé aux Jeux Olympiques de Rio 2016 et qui a la gentillesse de nous accorder justement quelques minutes pour nous raconter ses souvenirs et tout son vécu autour des Jeux Olympiques. Salut Mathieu.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour. Et puis pour lancer cette interview, une question qu'on a posée à tous nos invités jusqu'à présent. Quand on te parle des Jeux Olympiques, quel souvenir tu as ? Quelle est la première image marquante que tu as des Jeux Olympiques en tant que spectateur, en tant que téléspectateur ?
Ben écoutez, pour moi, simplement, c'est représenter son, être représentant de son pays, déjà, premièrement. Et puis, voilà, la cohésion groupe et l'équipe, malgré que ce soit un sport individuel pour moi, pour ma part.
Quels souvenirs vous gardez? Est-ce que vous avez vécu au village olympique à Rio? Et quels souvenirs vous gardez de ces moments, de cette vie au sein de du village?
Ben oui, écoutez, c'est la cohésion, c'est la solidarité entre tous les athlètes qui font que ça vous permet aussi de... Parce que bon, pour ma part, j'étais à Rio, donc voilà, ça vous permet de vous rapprocher et de vous rappeler que vous avez un pays aussi qui vous soutient, et surtout la cohésion du groupe et tous les athlètes.
Et est-ce que, alors vous êtes médaillé de bronze en boxe, est-ce que vous êtes allé voir d'autres sports à Rio? Est-ce que vous pouviez...
Non.
Non,
en toute honnêteté, non, parce que on reste, à vrai dire, assez focus sur la compétition, et ça nous permet d'éviter de se disperser aussi. C'est ça qui était important aussi pour notre part, surtout que nous, on était en milieu fin de Jeux Olympiques. Donc c'était important de rester concentré jusqu'au moment de la compétition.
Et nous sommes en studio avec François Brisson et Joachim Marx, qui ont été médaillés aux Jeux de 72 pour Joachim Marx, médaillé d'or. François Brisson, médaillé d'or à Los Angeles en 84 en football. Et il nous parlait de cet esprit de fête, de solidarité, d'amitié entre les peuples. Est-ce que vous avez ressenti ça également à Rio, puisque là, on est déjà dans une autre époque?
Oui, vraiment. Vraiment, parce que moi, écoutez, je suis un INSEPien, je suis un gars de l'INSEP, hein, qui a été énormément longtemps au sein de l'Institut National des Sports. Et c'est vrai qu'on croisait pas mal de sportifs, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a beaucoup de liens qui sont créés. Et je croisais énormément de sportifs, et c'est seulement en jeu que je me suis mis à parler avec eux. Pourtant, c'est des gens qu'on voyait pendant 4 années. Et à ce moment-là, ça a fait que voilà, on s'est rapprochés et ça a pas mal discuté et parlé de tout et de rien. Et c'est vrai que on se regroupe énormément et ça crée des liens.
D'accord. François nous expliquait que, parce que François est un grand amoureux du sport, que la boxe, aux Jeux Olympiques, la boxe est l'un des sports phare avec l'athlétisme, avec plein...
Un peu moins
peut-être aujourd'hui. Est-ce que vous le ressentez ça, vous l'avez ressenti à Rio, qu'il y avait des attentes derrière vous chez les boxeurs? On veut toujours que les boxeurs brillent. Est-ce que vous attendiez cette attente?
Bah écoutez, non, parce que déjà, en fait, ce qui a été historique, c'est notre moisson de médailles. On a fait 6 médailles olympiques.
Ouais,
c'est historique pour la France et pour notre sport. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie ferveur autour de ça. Il y a eu vraiment une grosse attente de notre part, hein, forcément. Mais il y a eu énormément de soutien par rapport à notre groupe qui plaisait et tout. Et les gens s'y retrouvaient parce que voilà, il y avait beaucoup de personnes qui disait de bonnes valeurs, avec de bonnes valeurs et de bons discours. Et donc, les gens se sont retrouvés à travers notre groupe.
Rio 2016, c'est la meilleure moisson, la meilleure équipe de France de boxe. À cette époque-là, il n'y a pas eu mieux avant et il n'y avait pas mieux après. Vous êtes un représentant de votre discipline. Comment vous avez vécu après les Jeux, quand vous êtes revenu? Vous êtes originaire de Hénin-Beaumont, c'est ça? Voilà. Comment vous avez vécu, vous, les Jeux après?
Bah écoutez, comme sur un petit nuage. Et c'est vrai qu'après ça, j'étais un peu dispersé. Et c'est pour ça que j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière professionnelle. Beaucoup de sollicitations. Et c'est vrai que ça... Si on ne garde pas la tête sur les épaules, vous pouvez être vite dispersé.
Et cette dispersion dont on parle, est-ce que ça peut expliquer ce sentiment qu'on a que les boxeurs aux Jeux Olympiques qui ont le statut amateur, lorsqu'ils passent professionnels, après souvent avoir fait un bon parcours aux Jeux Olympiques, ont parfois un peu de mal à confirmer les attentes et la valeur qu'ils ont prouvée aux Jeux Olympiques? Est-ce que c'est cette dispersion-là qui explique ce ressenti qu'on peut avoir du côté des suiveurs?
Non, c'est vraiment une question de culture. C'est vraiment une question de culture pour nous, pour la boxe. C'est pas un pays où la culture de la boxe est instaurée depuis de nombreuses années. On y a été, enfin, on a essayé de faire les choses à la force des choses et de nos résultats, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que nous n'avons pas un vrai statut professionnel, notamment pour les entraîneurs. Ils sont obligés de concilier le boulot avec le travail et c'est très difficile de progresser et de performer si vous conciliez les deux.
Et on va parler justement de performance. Il y a Anaïs qui est à mes côtés qui a une question qui pourra être répondue aussi par Joachim et par François qui sont avec nous en studio.
Alors, à l'époque, aviez-vous déjà des préparateurs mentaux ?
Du tout. Ça se fait de plus en plus. Moi, pour ma part, j'en ai jamais eu... Le réel besoin, mais c'est vrai que certains boxeurs et athlètes sont accompagnés par des préparateurs mentaux.
Joachim, François, je présume que la question de la préparation mentale, on en parlait peut-être un peu moins à l'époque.
On connaissait pas du tout.
Ouais.
Pas du tout. Il y a eu entraîneur, adjoint, et c'est tout.
Ouais, mais vous savez quand le meilleur préparateur mental, c'est toi, hein. C'est l'athlète, hein. C'est responsable de sa motivation quand même, hein, de son état d'esprit, de ses pensées. Bah, il faut contrôler tout ça, quoi. Il faut que ça monte, quoi. Il faut choisir les bonnes pensées, quoi. Mais bon, ça, moi, je sais que je faisais un travail. J'avais des lectures là-dessus très tôt quand j'étais même stagiaire au PSG. J'avais rencontré quelqu'un qui m'avait. J'avais des bouquins là-dessus sur le mental. C'est vrai que ça devrait se travailler aussi bien que le physique, que la technique. Donc, bien, voilà, savoir pourquoi tu fais ça, ne jamais oublier quand ça va moins bien. Quand tu es un peu nerveux, arriver à te calmer, à te maîtriser, à essayer de bien dormir. Donc ça, il y a quand même un travail personnel qui est important. Maintenant, c'est vrai que c'est une mode. À un moment donné, nous, on avait, à l'époque de Joachim et de la mienne, on n'avait pas de préparateur physique. On a entraîné tous les deux le Racing Club de Lens. On n'y avait pas de préparateur physique. On était tout seul, pratiquement, avec un adjoint. Mmh. Hein, on mettait les buts, les ballons. Aujourd'hui, il y a 15 personnes quoi, qui travaillent autour d'entraîneur. Donc, il y a eu beaucoup de gens, de professions qui sont arrivés autour des entraîneurs, dont les préparateurs physiques. C'est vrai que c'est un peu une mode. Maintenant, c'est vrai que c'est important pour ceux qui en ont besoin. Mais c'est important, la mentalité, c'est peut-être qu'en fin de compte, c'est là que les plus gros progrès seront à venir sur l'état d'esprit, quoi. Peut-être que c'est là, les plus gros progrès du sport sont peut-être là.
Alors, ça me fait rebondir pour vous, Mathieu. Oui. Nous sommes avec deux footballeurs, donc eux, ils gagnent à 11, ils perdent à 11. Vous êtes seul sur le ring. Quand on porte le maillot de l'équipe de France, parce que la boxe c'est un sport individuel, et quand on fait des combats, on défend son club. Là, vous défendez la France. Dans quel état d'esprit vous avez abordé ces Jeux de Rio ?
Écoutez, il y a cette ferveur aussi du public français autour de ces sports individuels. Mais malgré que ce soit un sport individuel, on est une équipe. Il y a des préparateurs physiques. Il y a des préparateurs mentaux pour ceux qui en ont besoin. Il y a des diététiciens, il y a les entraîneurs, il y a les cutmen. Et tout ça font en sorte pour que vous êtes au mieux le jour J. Mais on n'est jamais tout seul, finalement. Parce que dans la préparation, on a besoin de ces personnes, de ces petites mains derrière pour pouvoir performer. Et c'est hyper important de savoir que nous sommes soutenus. Et les entraîneurs aussi ont leur place dans le coin pour avoir les bons conseils quand on revient entre les minutes de repos. Mmh. C'est hyper important pour avoir les bonnes stratégies, parce que parfois il y a des choses qui fonctionnent pas et d'un œil extérieur ils nous permettent de visualiser la chose de loin et de permettre de mettre en place des choses.
Alors Mathieu, quand tu arrives à Rio, tu es auréolé d'un titre de champion du monde, celui de l'AIBA. Est-ce que quand on arrive à Rio, quand on sent aussi que l'équipe de France est attendue, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que la médaille d'or, c'est forcément l'objectif? Et cette médaille de bronze, est-ce qu'elle est du coup finalement une déception?
Une déception, je ne vais pas dire une déception parce qu'on ramène une médaille tout de même. J'étais le seul professionnel à savoir... Qui récolte une médaille. C'était nouveau aussi pour la boxe olympique d'avoir des professionnels qui combattent dans les rangs amateurs et qui font les Jeux olympiques. Pour moi, oui, ça a été assez extraordinaire d'avoir fait un résultat, de revenir aussi vite dans les rangs amateurs parce qu'il y a eu 6 mois de travail seulement et 6 mois de pleurs et de sueur, et c'était très difficile pour moi de revenir dans les rangs amateurs.
Mathieu, vous avez eu une carrière pro, vous êtes redevenu amateur, vous avez tenté de vous qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est un objectif, et comment vous le vivez, cette non-qualification?
Bah, c'était très difficile pour moi, dans le sens où de revenir dans les rangs amateurs après 8 ans loin de la boxe olympique. C'est très difficile quand vous instaurez, quand vous êtes programmé à du long terme. C'est très très compliqué. Et surtout, ce qui n'a pas été en ma faveur, c'est surtout l'âge, je pense. 34 ans, difficile de faire le poids régulièrement. En professionnel, vous avez plus de facilité à faire le poids. Mmh. Parce que vous avez plus de temps, vous pesez la veille. Là, vous devez vous peser tous les jours. Vous avez une compétition sur 1-2 semaines et vous devez faire le poids régulièrement. Et ça a été là, pour moi, très difficile, surtout que j'accumulais énormément de blessures. Le fait de revenir dans les rangs amateurs et de faire le poids régulièrement, bah, on perd énormément de minéraux, pardon, et vous êtes amené aux blessures. Donc ça a été très difficile pour moi.
Je présume.
Et c'est pour ça que j'ai préféré laisser place aux jeunes. Je me suis laissé 6 mois, de janvier 2023 à juillet. Et c'est pas passé pour moi, malheureusement. Donc voilà, j'ai préféré laisser place aux jeunes. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui est très performant, qui a 20 ans, qui performe. Et je pense qu'il va aller chercher la qualification chez les 80 kilos.
Est-ce qu'on a des chances de médaille justement en boxe cette année?
Bien sûr, tout le monde est potentiellement médaillable. Tout le monde. Ils ont acquéri déjà leur qualification. Donc ils sont potentiellement médaillables, tous. Surtout, bon, forcément, et c'est un nom qui ressort régulièrement, c'est Sofiane Ouméa, qui est champion du monde hein, depuis maintenant 2020. Ça fait 4 ans de suite qu'il fait champion du monde. Il est professionnel, lui, à savoir. Mm-hmm. Mais il est plus jeune que moi. Il a toujours été dans les rangs un peu amateurs. Donc voilà, il a vraiment la boxe olympique. Mm-hmm. Et je pense qu'il fera champion olympique, je pense, pour moi.
Eh ben, on croise évidemment les doigts pour cette chance de médaille française. Et puis, il y a une athlète dont j'aimerais que tu nous parles, une boxeuse qui, à mon grand regret, ne concourra pas pour la France, mais tu la connais bien parce qu'elle est licenciée à Hénin Beaumont. C'est Oshin Derieux qui concourra pour la Belgique. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette athlète.
Bah, écoutez, Oshin, c'est une boxeuse très courageuse. Parce qu'il faut savoir qu'elle fait 1h30 tous les jours pour pouvoir venir à la salle à Hénin Beaumont. Et de par son travail et son sérieux, elle a réussi à aller chercher cette qualification olympique. Et il faut savoir aussi que c'est une boxeuse professionnelle, mmh, championne d'Europe dans sa catégorie. Et je suis vraiment content pour elle parce que tout ce travail acharné et tous ces sacrifices qu'elle a pu faire à travers la route, à travers sa famille et autres. Bah, elle a réussi à aller chercher cette qualification l'année dernière au championnat d'Europe. Mmh. Donc, je suis vraiment fier et content pour elle. Et j'espère qu'elle fera une médaille. Pour moi, elle a un gros potentiel de devenir championne olympique.
Et on va évidemment suivre aussi son parcours de près, parce que même si elle va concourir sur le drapeau belge, évidemment elle va représenter la région au travers du club des Nains Beaumont, dont Mathieu Boderly qui a fait partie également. Alors Mathieu, on arrive au terme de cet entretien, quelle est ton actualité en ce moment, sportivement parlant? Est-ce que des échéances sont prévues pour toi?
Bah écoutez, moi j'étais au bord de la retraite. C'est difficile pour un sportif de prendre sa retraite simplement après 20 ans d'expérience, 20 ans de sport de haut niveau. Ça a été très difficile pour moi de tourner la page. Et finalement, après 6 mois de réflexion, ben je tente de revenir au niveau mondial. Donc j'ai sans doute un combat prévu au mois de mai. Le 31, pour un classement WBA, pour pouvoir éventuellement faire un championnat du monde derrière.
Eh ben, on croise les doigts et on est évidemment derrière toi, Mathieu. Merci d'avoir été avec nous pour témoigner de ton expérience olympique. Mathieu Boderly, boxeur, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, était notre invité. Encore merci, Mathieu.
Merci à vous.
Destination JO sur Radio Plus. Et on remercie également Joachim Marx qui est resté bien plus longtemps que prévu, Thierry, et qui malheureusement a des impératifs personnels. Et on le remercie parce que ça a été un vrai plaisir, Thierry, de l'avoir avec nous en studio.
Ah oui, Joachim, d'abord, c'est quelqu'un de éminemment très sympathique. C'est une légende du foot polonais, c'est une légende du foot lensois. Vu son âge, on va pas le cacher, parce que sur les réseaux sociaux, enfin sur avec internet aujourd'hui, on le sait, il a 80 ans et il a accepté de venir, lui qui ne sort plus beaucoup de chez lui, il a accepté de venir exceptionnellement dans cette émission, et rien que pour ça je remercierai infiniment Joachim Marx.
Et on est très très heureux et très honorés effectivement d'avoir eu tous ces souvenirs et puis tout ce pan de l'histoire aussi, hein, parce que on le disait, les Jeux Olympiques auxquels a participé et a vécu Joachim Marx, ils ont été très particuliers, Thierry.
Ben oui, 72 Jeux Olympiques à Munich. Les Jeux Olympiques, ça existe depuis 1896. Il y a eu des grands moments d'histoire sportifs, mais là, les Jeux Olympiques de 72, François va pas me contredire, c'est rentré dans l'histoire avec un grand H, quoi, parce qu'il y a ces attentats contre la délégation israélienne. D'ailleurs, quand on parle des Jeux Olympiques, on peut penser à tout. Los Angeles, Carl Lewis, 76, Guy Drew, Teddy Riner et compagnie. Et là, 72, personne ne sort un nom, à part François qui est un spécialiste du sport, en parlant de Mark Spitz, mais personne ne sort un nom, quoi. 72, ça te vient forcément à l'esprit, les attentats de contre la délégation israélienne, et il en a pas, il s'est pas étalé, il en a évoqué évidemment, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de parler de ça avec Joachim Marx. C'est quelque chose qui l'a marqué à vie, quoi.
Évidemment, on n'en ressort pas indemne quand on vit tout ça. Eh bien, on arrive à la fin de cette heure de Destination JO. On va se retrouver à partir de midi, juste après le Flash Info, pour la dernière heure de cette émission. On aura la chance encore d'avoir François Brisson avec nous. On vous passera également une interview d'Audrey Feutry, en passe de se qualifier, on l'espère en tout cas, pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024 en canoë-kayak. Et puis, on écoutera aussi une réaction de Jean-Claude Leroy, le président du département du Pas-de-Calais. Puis on a encore plein de choses à découvrir autour de ces Jeux Olympiques. On se retrouve à partir de midi sur Radio Plus. À tout de suite.
Ça va, t'as